pendant Zazen, on reste concentré sur la posture du corps, immobile, une posture équilibrée, sans trop de tension ni de relâchement, une posture dans laquelle on étire son corps entre ciel et terre, on relâche bien les épaules, on détend le ventre, on inspire et on expire calmement par le nez, et où, au lieu de suivre nos pensées, nous suivons le mouvement de la respiration, ce qui nous permet d'être constamment, parfaitement présent à notre vie réelle, ici et maintenant. Ce qui permet de continuer cette pratique de cette façon et durablement, c'est de s'éveiller au fait qu'en réalité, les phénomènes qui surgissent durant le zazen sont non seulement impermanents, mais sans substance. Tout comme notre propre ego. Alors cela permet de lâcher prise beaucoup plus facilement. Non pas comme un effort de la volonté, mais comme une actualisation de l'éveil. L'éveil, ce n'est pas seulement comprendre, c'est s'harmoniser avec ce que l'on a compris. Autrement dit, avoir un style de vie équilibré, harmonieux, dans lequel on n'est plus conditionné par notre égocentrisme, mais dans lequel, au contraire, on vit pleinement notre interdépendance avec les autres, avec la nature et tout l'environnement. Cela donne à notre vie un sens beaucoup plus profond, principalement parce que cela devient le fondement de toutes les valeurs de vie. Les préceptes ne sont plus des interdits, mais l'expression du fait que si on est véritablement éveillé à notre unité avec tous les êtres, on ne peut plus vouloir leur nuire par nos paroles ou par nos actes. Donc le précepte de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas mentir, sont respectés naturellement et sans effort. Il y a aussi un domaine fondamental où la patience est essentielle. C'est le domaine de la réalisation de nos vœux de Bodhisattva. On les récite après chaque zazen. Mais si l'on y réfléchit profondément, on se rend compte que ces vœux sont immenses et nécessiteront donc une patience infinie pour les mettre en pratique. Aider tous les êtres à remédier à leurs souffrances et à s'éveiller. Tous les êtres. Ça fait beaucoup de monde. En réalité, d'ailleurs, cela signifie aider tous les êtres avec lesquels nous sommes en contact, sans discriminer entre ceux que nous aimons et que nous sommes portés naturellement à vouloir les aider, et ceux que nous n'aimons pas ou que nous aimons moins, qui nous sont indifférents, et pour lesquels nous n'avons pas véritablement d'élan pour agir, pour leur venir en aide. Aussi nombreux que soient nos attachements, nos bandhus, nos illusions, nous faisons le vœu d'y remédier. Ça, c'est l'œuvre d'une vie, voire d'un nombre infini d'existences. Mais en même temps, c'est une pratique qui porte ses fruits immédiatement. À chaque fois que nous lâchons prise avec un attachement, on en ressent une profonde libération. Maître Dogen disait, c'est comme de rencontrer Bouddha face à face, c'est-à-dire comme de devenir semblable à Bouddha, faire la même expérience que lui de libération. Et de plus, l'expérience montre qu'il y a une joie profonde à aider les autres. Il est aussi question d'étudier tous les enseignements. Il ne s'agit pas de devenir une encyclopédie bouddhiste, mais d'étudier les enseignements du Bouddha en tant qu'ils sont des conseils de sagesse et une aide précieuse pour mener une vie juste. Quant au quatrième vœu, s'il s'agit de réaliser l'éveil suprême, évidemment, il y faut un nombre incalculable de vies. Mais la voie de Bouddha réside dans toutes les actions de la vie quotidienne. Alors notre vie quotidienne devient comme un terrain de jeu dans lequel nous pouvons exercer notre pratique. Aussi s'efforcer de vivre en harmonie avec nos vœux de Bodhisattva est au fond la meilleure manière de vivre et une source de joie et de bonheur. Pour soi-même et pour les autres. Donc en ce début d'année où nous échangeons des vœux, je fais le vœu que ce soit notre pratique à tous d'accomplir chaque jour le mieux que l'on peut nos vœux de Bodhisattva.